Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
19h24, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et il revient tout juste d'un grand tour de l'Europe, les Pays-Baltes, la Pologne, la Moldavie, alors que la guerre en Ukraine continue, que Vladimir Poutine s'est une nouvelle fois montré au monde entier, aujourd'hui même, via cette grande conférence, arguant que les sanctions économiques n'ont pas fait chuter son empire, l'incertitude plane sur les équilibres européen. Bonsoir Jean-Dominique Giuliani.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Vous rentrez, je disais, de différents déplacements dans divers pays d'Europe, notamment situés à l'Est. Déplacements en lien, j'imagine, avec la guerre en Ukraine.
Oui, bien sûr, avec la présidence française de l'Union européenne. J'ai pensé que, comme laboratoire d'idées français, la Fondation Robert Schuman pouvait aller un peu écouter ses partenaires, ses collègues, échanger avec eux, voir faire ce que en France on ne sait pas très bien faire en fait, c'est ouvrir les oreilles et essayer de partager des idées. Et donc dans tous ces pays-là, j'ai appris beaucoup de choses, et j'ai compris aussi beaucoup de choses, comment la réaction à l'égard du conflit en Ukraine était différente des deux côtés de l'ancien rideau de fer en fait. Il y a ceux qui sont tombés du bon côté et ceux qui étaient restés du mauvais côté.
C'est-à-dire
les pays d'Europe centrale et orientale qui ont connu, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, et même avant d'ailleurs, le pacte germano-soviétique, où on se partage la Pologne et les pays baltes entre le parti communiste soviétique, l'Union soviétique et les nazis. Eh bien, après la guerre horrible, 60 millions de morts, avant la guerre, 15 millions de civils morts pour des raisons idéologiques. Et après la guerre, encore la dictature communiste. Donc, si vous voulez, quand vous êtes polonais ou balte, contrairement à ce que pensent les Français ici, ce n'est pas une revanche qu'on veut contre la Russie. C'est la peur de voir revenir les terres de sang, comme a dit un historien américain, Timothy Snyder, qui a écrit un livre justement sur cette zone-là.
C'est pas de la fiction.
C'est pas de la fiction. Et quand vous parlez avec nos amis d'Europe centrale et orientale, chacun ressent quasiment physiquement une peur de voir revenir les horreurs qu'on a vécues au XXe siècle. Parce que toutes les familles ont eu des grands-pères déportés, des pères torturés, etc. Et on oublie cela. Et ce que Poutine a réveillé, c'est la mémoire de cela. Alors évidemment, les Polonais sont les plus allants.
Il y a une histoire derrière. Hein.
Voilà. Il y a une histoire très longue. Mais les autres, en général, ont peur de voir revenir ces périodes.
Vous allez nous parler de tout ça. On va marquer une première pause dans les débats d'Europe Soir. Et juste après, justement, on va passer en revue les différentes, j'allais dire, strates et différentes déclarations que vous avez pu avoir, justement, en fonction de tous ces pays dont vous revenez tout juste. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Avec nous le président de la Fondation Robert Schuman, Jean-Dominique Giuliani, qui vient justement de rentrer de différents pays. On peut les énumérer, Jean-Dominique Giuliani.
Roumanie, Moldavie, Pologne, Lettonie, Hongrie, et puis Grèce aussi.
Tous ces pays qui, en tout cas dans la première partie de ceux que vous avez cités, sont vraiment collés, j'allais dire, à l'Ukraine, qui se posent les questions, on l'a dit juste avant la publicité, de savoir s'ils sont les prochains sur la liste de Vladimir Poutine, et qui comptent toujours sur, en tout cas pour ceux qui sont dans l'Union européenne, cet article 5 de l'OTAN qui prévoit que, de toute façon, s'ils sont attaqués par les Russes, ils seront protégés. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est une fiction? Ou est-ce que c'est une incertitude?
Il y a deux choses. Il y a l'alliance militaire opérationnelle de l'OTAN, qui là est en alerte, et qui est une alliance tout à fait considérable, la première alliance du monde d'ailleurs, l'aviation de l'OTAN, ça doit être 3 ou 4 fois celle de la Russie, donc c'est une alliance bien plus forte que la Russie, une alliance nucléaire aussi. Et puis, il y a l'Union européenne qui, on le voit, est très active et est une puissance différente. Elle n'est pas militaire, elle est économique. Elle peut permettre à la Moldavie de survivre, elle peut permettre à l'Ukraine de recevoir beaucoup d'argent, ce qu'elle fait. Vraisemblablement, elle s'engage déjà dans la reconstruction de l'Ukraine, qui est un espoir et une perspective. Et donc ces deux puissances, autant Union européenne, qu'on a longtemps opposées, y compris en Pologne, où on préférait la présence des Américains.
D'ailleurs, on achetait du matériel militaire américain en se disant que...
Ouais. On s'aperçoit qu'elles sont très complémentaires en réalité. C'est vrai qu'avec les Américains, on a créé une alliance militaire extrêmement impressionnante, avec une force dominée par la technologie et les forces américaines, qui est vraiment dissuasive. Mais avec l'Union européenne, on a les moyens économiques et politiques d'être extrêmement attirants.
À propos justement d'alliances et d'alliances économiques, avec ce qui s'est passé avec les sous-marins australiens, qui donc finalement n'ont plus acheté de sous-marins français, mais des sous-marins américains, est-ce que finalement cette alliance économique et militaire, elle est aussi homogène et aussi solide qu'on le croit, justement pour cette partie du monde ?
Peut-être pas. Il y a des doutes. Mais comment vous dire ? Si Poutine a déclenché la guerre, c'est que tous les peuples du continent européen rêvent d'intégrer l'Union européenne. C'est quelque chose que, ici, on mesure mal. Souvent, on entend beaucoup de gens désespérés à l'intérieur de l'Union européenne, parce que c'est compliqué à comprendre, etc. Parce qu'on le prend comme une contrainte.
Oui,
à l'extérieur et aux frontières.
On la présente comme une usine à gaz, parfois.
Voilà. Eh bien, sachez, et je ne raconte pas d'histoire, qu'elle fait rêver à l'extérieur. Maintenant, il va y avoir 10 candidats à l'adhésion. Mm. Donc, et quand j'allais encore en Russie, puisque il y a quelques années, on pouvait encore le faire, les jeunes rêvaient de vivre à l'européenne et pas à la russe. On n'immigre pas en Russie. En ce moment, les Russes s'en vont de leur pays. Ils s'échappent pour aller en Turquie ou ailleurs parce qu'ils ne veulent pas vivre dans une société policière où il n'y a pas de liberté d'expression, où la richesse est captée par une infime minorité d'oligarques qui sont des voleurs, manifestement, et qui ont mis la main sur les richesses du pays. Tout ça, comment dirais-je, orchestré et rendu possible par un ancien du KGB relativement médiocre et qui règne par la terreur et la peur.
Quel message vous avez passé à tous ces pays lors de votre tournée ?
Mais moi, d'abord, je suis allé les écouter et ensuite, j'ai essayé aussi d'expliquer qu'il n'y aurait rien de pire qu'une division entre l'Est de l'Europe et l'Ouest de l'Europe. Et donc, il y a des explications à ce que le président français, président en exercice du Conseil de l'Union européenne, continue à téléphoner à M. Poutine. Et la meilleure explication que j'ai trouvée, c'est la suivante. Lorsqu'il y a une prise d'otage, on envoie le GIGN, et la première chose qu'on fait, c'est de discuter.
Un négociateur.
Un négociateur pour éviter que le preneur d'otage ne fasse un massacre. On est exactement dans cette situation-là et je crois que le président français n'a aucune illusion sur Poutine. De surcroît, il a accru l'aide de la France à l'Ukraine et à tous les pays, par exemple comme la Moldavie, qui sont des pays en voie de déstabilisation par la Russie de l'intérieur avec des moyens assez tordus, etc. Donc, première explication. Deuxième explication, la France est la seule puissance nucléaire sur le continent européen aujourd'hui. Et quand vous avez la puissance nucléaire qui est destinée à ne pas être employée, parce que si elle
devait... C'est une force de dissuasion.
Ce serait la fin du monde. Mmh. C'est une force de non-emploi. N'empêche que, quelque part, vous avez le pouvoir de Dieu. Vous avez le pouvoir de déclencher la fin de la planète. Et que ce soit des gens un peu dérangés comme M. Poutine ou des gens... des démocraties comme la nôtre. Et donc, vous ne parlez pas le même langage diplomatique, parce que vous avez un poids. Et quand vous parlez puissance nucléaire avec Poutine, vous pouvez lui dire, n'invoquez pas, ne faites pas peur aux Européens, c'est exactement ce qu'on a fait, les Français, les Américains. On a arrêté d'évoquer, comme mon petit-fils me l'a dit en rentrant de l'école, est-ce qu'on va avoir une bombe nucléaire sur Paris ? Donc, le message de terreur était bien passé. On n'entend plus parler de rien parce qu'on ne joue pas avec ça. On parle entre gens responsables. Donc, j'ai expliqué ça avec mes partenaires et on a pu échanger. Et j'ai aussi compris combien dans cette affaire, la peur, l'histoire comptaient énormément dans la sensibilité qu'on pouvait avoir à l'égard de ce conflit en Ukraine.
Est-ce que ces partenaires européens auxquels vous avez parlé ont compris qu'il y avait plus d'espoir à rester entre Européens que de compter systématiquement sur les Américains ?
Oui, je crois qu'on a dépassé ce stade. C'est-à-dire qu'on sait bien que tant qu'on n'a pas créé une Europe de la défense avec des armées et fortes, rattraper notre retard où on a désarmé parce qu'on pensait que la paix éternelle était arrivée, à tort, tant qu'on n'a pas rattrapé ce retard, on a besoin de l'alliance avec nos grands alliés parce qu'on est dans le même camp de la liberté et de la démocratie, avec, que ça plaise ou pas, à ceux qui préfèrent le Venezuela ou les rêves idéologiques, il y en a encore, nous sommes dans le même camp. Et donc, pour tout ce qui arrive dans le monde, nous serons dans le même camp, y compris en Indo-Pacifique, la Chine et Taïwan, nous ne sommes pas dans le camp des dictatures. Donc, nous ne jouons pas aux intermédiaires entre les dictatures et la démocratie. Mais l'Union européenne, c'est quelque chose d'inédit qu'on a construit, c'est-à-dire de pacifier le continent, d'unifier le continent de manière pacifique. Et c'est un exemple aussi.
Je n'ai pas voulu vous arrêter tout à l'heure dans votre explication, mais vous avez quand même, et je l'ai noté, je pense les auditeurs aussi, affirmé que M. Poutine était dérangé. Pourquoi est-ce que vous dites ça ?
Non, je pense qu'il vit dans le passé et qu'il a une mauvaise lecture de l'histoire et des intérêts de son pays. Donc, je ne pensais pas à un dérèglement mental.
Oui, parce qu'on a entendu beaucoup de choses au début, puis d'ailleurs, on ne les entend pas, parce qu'on a bien compris que c'était tout sauf du dérangement, si j'ose dire, c'était vraiment une conquête.
Et puis, on n'en sait rien, ça ne sert à rien de dire ça. En revanche, c'est peut-être un abus de langage de ma part, je veux dire par là qu'il est complètement décalé dans le temps. Il invoque Pierre le Grand, qui est du XVIIIe siècle, qui possédait la Suède, la Finlande, etc. Bon, la Pologne en entier, etc. Bon, ça vous tient à cœur. Et donc c'est complètement hors du temps. Et d'ailleurs, il agit complètement à contre-temps. Une guerre d'agression telle qu'il la mène est condamnée par le monde entier. Par le monde entier, on l'a vu à l'ONU, etc. Parce que quand on a des différends aujourd'hui, eh ben, on s'y prend autrement pour essayer de les régler avant d'envoyer les chars, comme il l'a fait, avec des arguments complètement irréalistes. Voilà.
Aujourd'hui, Vladimir Poutine est apparu, je le disais en introduction, ça a été retransmis par plusieurs chaîne de télévision, et le voilà qui dit deux choses, il dit beaucoup plus de choses, mais si on doit ranger tout ce qu'il a dit, la première, c'est que finalement l'Empire russe est toujours là, que les sanctions économiques ne l'ont pas affaibli, c'est ce qu'il affirme encore une fois, et puis deuxièmement, il joue le bras de fer sur le gaz, sur le pétrole, sur les céréales, sur sa propension à déclencher une crise alimentaire mondiale.
Vous savez, la vie pour lui n'a pas d'importance. Donc on le voit, la manière dont il utilise ses troupes, c'est une vieille tradition, hélas. Staline était très responsable dans les 20 millions de morts que les Russes ont connus pendant la Grande Guerre patriotique. Donc pour lui, la vie n'a pas d'importance, c'est un cynisme absolu et c'est un grand menteur. Et tout le système est basé sur le mensonge. Quand on écoute son droupi de ministre des Affaires étrangères, Lavrov, il vient de dire hier, je crois, nous n'avons attaqué personne en Ukraine. Donc, si vous voulez, pour lui, c'est une opération de police. Donc, à ce stade-là, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans le même siècle. Ils sont encore au 20e et parfois même au 19e dans la manière de raisonner. Et ils n'ont pas compris qu'une puissance, ce n'est pas seulement la force. Ils ont tiré de l'expérience des Américains en Irak, etc., qu'on peut critiquer d'ailleurs. Ils ont tiré le fait qu'on pouvait faire pareil. Alors qu'en réalité, moi, comme conclusion de la présence américaine en Afghanistan ou en Irak, je tire la conclusion inverse, que ce n'est pas par la force qu'on peut gagner une guerre aujourd'hui. Et donc, il va la perdre. Il faut qu'il la perde, parce qu'il faut sinon il va continuer et il va déstabiliser les autres pays.
19h41, on marque une nouvelle pause. Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, et on vous retrouve dans un petit instant sur Europe 1.
Europe Soir Weekend, Pierre de Villeneuve.
Avec en notre compagnie Jean-Dominique Giuliani, le président de la Fondation Robert Schuman, qui, comme je vous le disais en introduction tout à l'heure, revient d'un grand voyage où il a été à la fois en Pologne, dans les pays baltes, également en Moldavie. Tiens, à propos de la Moldavie, mais c'est aussi le cas pour l'Ukraine, c'est un grand pas, puisqu'ils ont, ces deux pays ont eu le feu vert pour la candidature à l'Union européenne. Ça, on avance quand même dans l'adhésion.
Oui, la Moldavie, c'est un petit pays de 2,6 millions d'habitants, où on parle le français beaucoup, et le roumain, puisqu'en réalité, c'est un pays qui est très lié à la Roumanie qui a été déstabilisé aussi par la Russie, où il y a encore une petite sécession du côté de la rivière.
Il y a des pro-russes en Moldavie.
Oui, de l'autre côté de la rivière, dans Transnistrie, il y a là quelques résidus de l'armée rouge qu'on a envoyé à l'époque, tout à fait au début du mandat de Poutine, pour veiller sur les grands entrepôts d'armes. Et puis, évidemment, les armes sont disséminées dans toute l'Europe, il y a du trafic partout. Et puis maintenant, on fait du trafic de cigarettes dans cette partie qui est en fait de l'autre côté de l'Ukraine par rapport à la Russie.
Oui, c'est frontalier. Ouais.
Voilà. Et un conflit, à mon avis, soluble dans le développement économique. Parce que justement, la question de l'adhésion, c'est ça que vous posiez. Bien sûr, ni l'Ukraine ni la Moldavie ne vont adhérer tout de suite, comme l'Albanie qui est toujours candidate, ou le Monténégro. Mais quand on est candidat à l'Union européenne, on s'engage à appliquer ses règles en matière d'état de droit, de lutte contre la corruption. L'Union européenne, c'est un marché économique très dynamique, très compétitif, donc on ne peut pas non plus y entrer comme ça, sinon toutes les entreprises du pays sont mortes en quelques années. Donc, il y a un long processus de rapprochement. Et c'est ça que réclamaient les Ukrainiens et que réclamaient les Moldaves, c'est de manifester politiquement qu'on veut se rapprocher et puis de profiter en plus de l'expertise des Européens pour se rapprocher de leur mode de vie.
Mais quel intérêt, c'est quand même un échange, quel intérêt a l'Union Européenne d'intégrer la Moldavie et surtout l'Ukraine qui est un pays détruit?
Oui, avant même la question de l'intérêt, c'est peut-on le refuser? Quand vous avez des gens qui choisissent votre mode de vie et qui ont deux voisins et qui disent « c'est avec vous que je veux vivre, je ne veux plus vivre à la soviétique », c'est très difficile de refuser. On a hésité, vous l'avez vu, on a essayé, on a posé des conditions et ensuite, on ne le refuse pas, mais on pose des conditions, c'est un long chemin et c'est un signal politique. Ok, vous voulez faire partie de la famille, d'accord. Voilà, ça, on va travailler ensemble à ce que vous puissiez le faire. Moi, j'ai vu, si vous voulez, tous ces pays d'Europe centrale et orientale, ça fait 40 ans que je les sillonne. Et j'ai vu la magie de l'Europe. J'étais en Roumanie, Bucarest est une grande capitale européenne. Vous seriez dans les faubourgs de Paris ou à Bucarest, vous verriez désormais les mêmes magasins, la même propreté, les mêmes trucs. Vous voyez que les gens ont changé de vie, que les jeunes ont une éducation, un avenir. C'est totalement magique et c'est ça que les Ukrainiens choisissent.
Au-delà de la magie, il y a aussi l'économie, Jean-Dominique Giuliani. Si on intègre l'Ukraine et la Moldavie, par exemple, c'est aussi peut-être pour les pays occidentaux, les pays forts de l'Europe, d'intégrer des usines avec, il faut le dire, avec une main-d'œuvre qui ne sera peut-être pas aussi aussi cher que dans les pays occidentaux.
Oui, non, mais qu'il y ait des différences, oui, bien sûr, de développement. L'objectif qu'on se fixe, c'est d'avoir à peu près le même SMIG, les mêmes conditions de vie. Et écoutez.
Et d'ailleurs, Laurent Berger y œuvre beaucoup avec, justement, en tant que président de tous les syndicats européens.
Non, mais sous présidence française, on vient d'adopter un texte qui permet de tenir compte des différences. Un Roumain n'est pas payé autant qu'un ouvrier français, c'est normal. Mais l'idée, c'est une convergence. Et puis surtout, comment vous dire, développer ces pays à nos frontières ou à l'intérieur de nos pays qui sont moins riches que nous, c'est notre intérêt. C'est l'intérêt de nos entreprises, c'est l'intérêt de notre économie. Et finalement, c'est de la puissance en plus.
Clairement une Europe qui commence à se redessiner avec ce conflit ukrainien. Est-ce que il y a une forme d'instabilité européenne qui va être mise en place. Le premier pays qui me vient à l'esprit, c'est évidemment la Turquie, parce qu'on a dit non à la Turquie pour qu'elle adhère à l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une Europe qui se construit plus vers le nord et qui oublie un peu son sud?
Non, on ne peut pas dire ça. Qu'il y ait des changements à attendre dans l'organisation européenne, oui, parce que lorsqu'on sera 30 pays, il va falloir certainement essayer de jouer sur la différents cercles, ceux qui sont dans l'euro, ceux qui sont dans Schengen, etc. C'est déjà le cas. Dire qu'on oublie le Sud, non. La Turquie, c'est un problème. C'est que la Turquie est un problème en soi, parce que sa dérive, notamment en matière d'état de droit, etc., ne la qualifie pas pour venir ici. Alors on va nous dire, mais l'Ukraine n'est pas qualifiée. Non, mais elle veut se qualifier. Donc est-ce qu'on lui refuse le droit ?
Ça s'est passé pour la Turquie ? Est-ce qu'il y a aussi eu volonté au départ en disant on veut s'intégrer et donc on veut changer de mode de vie ?
Oui.
Est-ce que c'est un refus intuitu personné à la personne de Recep Tayyip Erdogan ? Ou est-ce que s'il y avait eu un autre dirigeant, peut-être que ça serait passé autrement ?
Oui, c'est lui et son parti qui, au départ, se faisait passer pour un démocrate musulman. Disant, vous avez des partis démocrates chrétiens, moi je suis démocrate musulman. Et en fait, on s'est aperçu que non, c'était l'ami des frères musulmans dans la région. C'était quelqu'un qui avait un agenda néo-ottoman, comme il le dit. D'ailleurs, il a créé un palais absolument extraordinaire de 1000 pièces où il préside. Et le meilleur critère, c'est encore, pour moi, si vous voulez, chaque fois, c'est la vie des gens. Les jeunes, et notamment les jeunes filles, nous supplier à des « laissez-nous entrer dans l'Union européenne parce qu'on ne veut pas vivre avec les islamistes, etc. » On ne veut pas cette vie. Et bon, d'ailleurs, on n'a toujours pas officiellement dit non à la Turquie, même si la perspective s'en éloigne.
Et on collabore, et notamment en matière d'immigration sur la Méditerranée.
Absolument.
Il y a eu un grand rôle joué par la Turquie, ça c'est indéniable.
Et puis elle est membre de l'OTAN, et donc, si vous voulez, donc on a quand même un dialogue. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette adhésion, c'est que ce n'est pas un choix de l'Est par rapport au Sud.
Ouais.
Je peux vous dire que dans le budget européen, il y a 40 milliards d'euros qui vont aller en Afrique pour essayer de, justement, juguler l'immigration, mais aussi aider ces États dont beaucoup sont faillis. Donc non, Robert Schuman l'avait d'ailleurs écrit, et c'est la doctrine officielle de l'Union européenne, l'avenir de l'Union européenne se joue en partie en Afrique, qui est le continent le plus jeune aujourd'hui, et où les différences de richesse feront que tout le monde viendra chez nous si on n'aide pas les Africains, notamment les jeunes générations, une croissance qui est revenue en Afrique, des perspectives beaucoup plus positives qu'on ne le croit aujourd'hui.
On parlait au début de cette émission de Vladimir Poutine, de ce joug que le président russe continue à tenir sur les pays de l'Est européen, sans compter évidemment toutes les anciennes républiques soviétiques qui sont également dans la Fédération de Russie. Un jour, Vladimir Poutine, il y a très longtemps, avait dit qu'il souhaitait une Russie de Lisbonne jusqu'à l'Oural. Est-ce que finalement c'est l'arroseur arrosé, parce que j'ai envie de dire cette folie de la conquête l'habite encore ? Est-ce qu'elle est complètement fictionnelle ? Ou est-ce qu'il faut quand même se méfier de trois petites choses ?
Il faut se méfier de beaucoup de choses, mais c'est le général de Gaulle qui avait parlé de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Et c'était à l'envers.
De l'Europe, oui.
Absolument.
Tandis que Poutine, il parlait de la Russie.
Oui.
Ouais.
Et dans son rêve d'être le Pierre le Grand du 21e siècle, il a toujours cette volonté expansionniste qui vraiment n'est plus d'actualité au XXIe siècle. On le voit bien, des anciennes républiques soviétiques, y compris encore d'ailleurs à l'intérieur de la Russie, elles veulent pouvoir se développer, pouvoir commercer librement et souvent pouvoir s'affranchir de ce joug policier qui date et qui est vraiment hors de proportion. Alors, la Russie a encore de beaux restes, de puissance, une armée qui sait faire, 5000 têtes nucléaires. Elle a
mais c'est quoi C'est la population qui, à un moment donné, va dire stop ? C'est la population russe qui va dire stop à Poutine à un moment donné ?
Je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Vous voyez, avant la crise en Crimée, avant 2014, dans l'espace Schengen, 40% des visas Schengen étaient accordés à des Russes. À des Russes de la classe moyenne, à des Russes qui avaient envie de venir passer leurs vacances en Europe, etc. Tout ça à cause de l'attitude de Poutine et pas du tout à cause de l'attitude des Américains ou autres. Personne n'a voulu agresser la Russie, mais par capillarité, petit à petit, les peuples ont choisi. Et les peuples, ils ont aussi leur mot à dire. Et ça, il faudrait peut-être le rappeler aux anciens du KGB.
Merci beaucoup, Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman, d'avoir été avec nous. On se retrouve bien sûr demain à 10h pour les Grandes Voix. Je vous rappelle, 18h, dimanche, grande émission spéciale pour les législatives. 19h55, c'est Europe 1. On retrouve Lionel Rousseau. Bonsoir Lionel.
Bonsoir Pierre.
Et on va parler de rugby, je crois.
Absolument. Le studio des légendes d'abord, avec Jacques Vendroux, Charles Villeneuve, Giroud et Fabien Onteniente pour toute l'actualité du sport et notamment du football. Mais en effet, le rugby. En intégralité, les deux demi-finales du top 14 du championnat de France de rugby sur Europe 1. La première, c'est ce soir entre Toulouse et Castres. Le tenant du titre face au leader de la saison régulière. On suivra ça en intégralité avec nos experts, nos invités également en studio. On va se régaler. J'en suis sûr, il y aura Mathieu Blin et Christophe Moni notamment.
Merci Lionel Rousseau. Et puis je vous rappelle l'information principale de ces deux heures d'information, la mort de Jean-Louis Trintignant à l'âge de 91 ans. On y revient dans le flash de 20h. À tout de suite.